Merci beaucoup. Je trouve que c'est très clair. En plus, on n'a pas vraiment abordé la question des finances locales en France. Parce que, bon, mis à part Claire Delpech, personne n'ose y mettre le nez. Nous sommes totalement. Enfin, c'est un voile d'ignorance, quoi. Et alors, moi, c'est justement la question que je voulais poser. C'est-à-dire que ce système-là, politiquement, en Allemagne, il est complètement clair. C'est-à-dire que tout le monde. Enfin, tout le monde. C'est pas forcément chaque citoyen, mais en gros, c'est un système qui est peut-être complexe, mais qui est connu de tout le monde, qui est sur la table. Il n'y a pas de voile d'ignorance. On sait très bien qui gagne, qui perd, qui donne, qui bénéficie. Voilà, c'est ça, moi, que je trouve assez intéressant, parce que le système français est aussi un système de fiscalité quand même redistributif, alors avec tellement de critères d'ailleurs que on se demande si au bout du bout il est véritablement redistributif, mais il est singulièrement opaque, c'est-à-dire que en réalité personne, encore une fois à part Claire Delpech qui nous rejoint et que je remercie, personne n'est capable d'expliquer de manière aussi simple et aussi claire que tu l'as fait. Et donc mes deux questions, c'est ça, c'est est-ce que ce que tu viens d'exposer, c'est vraiment sur la table, tout le monde est au courant? Et deuxièmement, quels sont les effets de la transparence, les effets politiques de la transparence? C'est-à-dire que, est-ce que la transparence, ça permet le consensus, ou au contraire, ça fabrique de la discorde?
Disons que le système tel qu'il est n'est pas globalement remis en question. Ça, non. Donc ça, c'est pour ça que j'ai dit que ça ne changera pas. Hein. Globalement, hein, après, les détails, oui. Transparence... ça semble simple, mais si vous parlez à quelqu'un qui doit calculer la redistribution, il vous dira qu'il faut avoir fait des études de mathématiques supérieures pendant de longues années. Donc, quand on va dans le détail, c'est un peu plus complexe quand même. Mais quand même, ça marche, voilà. Est-ce que ça mène à un consensus? Non. Parce que, comme j'ai dit, il y a continuellement quand même des débats sur les limites de la redistribution entre l'Inde riche et l'Inde pauvre, pour simplifier. Ça, c'est un débat qui existe. Hein. Soit du côté de ceux qui se sentent déshérités, on l'a vu à l'Est, ça c'est très clair, il y a un vrai conflit Est-Ouest actuellement, qui renaît de ses cendres, pour ainsi dire, et il y a aussi, à l'Ouest, évidemment, un conflit entre communes qui ne savent pas où mettre leur argent, et des communes en banqueroute, qui sont donc gérées par les Länder.
Ah, il y a la possibilité d'avoir une tutelle
Oui, bien sûr, parce que la tutelle de l'État, c'est les Länder. Ouais, ouais. Donc il y a des communes dans l'ancienne région de la Ruhr industrielle qui n'a pas su se reconvertir complètement. Il y a des communes qui sont en faillite. Et donc là, c'est le Land qui intervient pour garantir un minimum de services et la continuité des prestations. Donc il y a matière de conflit, mais ce n'est pas tellement flagrant, sauf actuellement Est-Ouest, c'est un peu plus brûlant, que le système de péréquation est remis en question.
Alors, on a plein de questions. C'est moi qui fais passer le... Alors, c'était vous en premier, Martine de Pompée, oui, c'est ça?
Martine a toujours...
Haut et clair. En Lorraine.
En Lorraine, près de Nancy, voilà, région grand-est, frontalière de l'Allemagne, entre autres. Simplement, je voulais juste un petit peu comprendre comment fonctionnent les marges de négociation. Vous parlez de négociation, c'est-à-dire en gros, est-ce que ces marges de négociation, elles sont normées par l'État fédéral, ou c'est au niveau de chaque lande, on a aussi des marges d'appréciation, budgétaires. Ça, j'ai du mal, je ne vois pas trop comment ça peut s'opérer.
Ouais. Franck, on va prendre un certain nombre de questions.
Ah non, ouais. Il faut que je prenne. Oui. Attention.
Je voulais savoir, par rapport justement à la liberté d'action de chaque niveau, quelle est la marge d'autonomie sur les taux? C'est-à-dire, vous avez parlé de base, 60%, je crois, des impôts, proviennent des impôts sur le revenu. les impôts communs, enfin c'est les impôts communs, comment ces impôts, est-ce que c'est des taxes qui sont libres, est-ce que les communes sont sous tutelle, quand vous dites que c'est l'Ande qui, est-ce que l'Ande est centralisateur et le maire a peu de marge de manœuvre pour définir ses taux, ou est-ce que c'est, ou alors parce que le gros débat en France, c'est ça, c'est l'autonomie fiscale et financière,
liberté de fixation des taux.
Quelle marge, est-ce que des bases aussi fiscales et financières sont moyennées? Parce qu'on parle pas de ça, on ne pourra pas comprendre des finances. Donc est-ce que vous avez des bases fiscales moyennes au niveau des CRAES ou alors est-ce que c'est des valeurs
En fait, il va répondre à votre question, je pense.
Mais c'était pour descendre un peu plus, parce que ça paraît, moi, je rêverais d'avoir un cours de fiscalité aussi simple au niveau français.
Ah oui, non mais je suis d'accord. Merci beaucoup pour cette question. Alors j'avais vu le doigt de Sandra se lever.
Oui, vas-y, fais les circuits.
Ouais. Alors, pardon, hein, je fais dans l'ordre géographique.
C'est Cédric de Papatigno, Gendarmerie nationale. Je voulais savoir si la disparité.
Allons.
La disparité entre les landers que vous avez donc évoqués hein, générait des migrations. Et est-ce qu'il existe des règles, une réglementation migratoire en fait, en termes de droits, de possibilités migratoires entre les landers je sais pas, comment c'est organisé au sein de l'Allemagne entre les landers. Est-ce qu'il existe des une législation
des frontières.
Propre, oui. Je sais pas, c'est une question que
En Chine,
c'est
ça.
Génial,
merci.
Ça
merci beaucoup. Alors, attends. Comme tu veux. Alors, je crois qu'il y a Claire qui s'intercale.
Géographiquement, pardon. Juste une toute petite question. Vous nous avez dit qu'il y avait des systèmes de péréquation tant au niveau communal qu'au niveau des Länder. Quels sont les indicateurs qui fondent ces péréquations? Est-ce que c'est une indication, est-ce que ce sont des indicateurs pardon, sur les ressources ou est-ce que ce sont des indicateurs sur les charges? Et si ce sont des indicateurs sur les charges, comment sont-elles évaluées? De quelles charges parle-t-on?
Ou sur la richesse des habitants, par exemple.
Ou sur la richesse des habitants, bien sûr. Donc, richesse de l'institution ou du territoire.
Non. Oui, on va passer derrière.
Bonjour, je suis peut-être le seul élu de l'Assemblée, voilà, et en plus je représente une vieille institution puisque c'est le département. Je suis élu dans un département, la Haute-Savoie, entre donc Genève et le Mont-Blanc, pour vous situer géographiquement. Juste la question, c'est est-ce que la présentation d'un budget annuel est obligatoirement un budget à l'équilibre? Donc c'est l'obligation des collectivités locales, qui sont les communes, départements, régions, et l'État s'octroie des droits d'être dans un déficit abyssal, mais bon, ça fait partie du jeu. Et vous, comment est-ce que ça se passe au niveau allemand?
Merci.
Ça suffit. Hein.
Ça suffit.
Ouais.
La dernière.
Et puis,
voilà. Ah oui,
d'accord,
vas-y, je peux
me permettre. Pierre Rochap, je suis dans une directeur de service d'une interco près de Lyon. Donc, en fait, c'est l'ancienne Lotharingie. Hein, pour, j'avais trois questions, en fait. J'avais trois questions. La répartition en fait, des dotations entre les Länder et le Bund est réglée par la loi fondamentale. Donc, en cas de désaccord, est-ce que ça se termine au niveau devant le tribunal constitutionnel de Karlsruhe? C'était ma première question.
Oui.
Deuxième question, oui. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le juge en fait qui arbitre le cas échéant les désaccords, ce qui est quand même un élément important. La deuxième question, c'est dans ce schéma au moment de la réunification, quelles ont été les modalités particulières pour les lenders de l'Est? Et ma troisième question tient à, enfin, ma curiosité a été piquée par le cas berlinois. Berlin, c'est quand même la capitale. Elle est quand même portée par une dynamique métropolitaine forte. C'est maintenant enfin une ville dont on dit que l'immobilier a beaucoup augmenté. Donc, qu'est-ce qui peut expliquer cette situation de faillite, en tout cas de difficultés financières récurrentes?
Voilà, on terminera sur Berlin, c'est bien.
Tu voulais des questions, tu es servi.
Ben maintenant, il y a des questions, oui. Alors, marge de manœuvre. À plusieurs niveaux, il y a des marges de manœuvre. Il n'y a pas de marge de manœuvre quand on parle de l'impôt sur le revenu, parce que ça, c'est le même partout. La TVA, c'est la même partout. Ça, c'est réglé au niveau fédéral. Tout le reste, par exemple, ce que les communes payent aux CREIS pour gérer ensemble leurs tâches, ça, c'est vraiment chaque CREIS qui peut le définir. Il y a des luttes politiques, mais on va voir. Là aussi, on va définir qu'est-ce qu'il faut faire ensemble, de quoi on a besoin, quels sont nos moyens, est-ce qu'on peut investir ensemble ou pas. Donc ça, il y a des CREIS très riches et des CREIS relativement pauvres. Donc ça, là, il y a une marge de manœuvre. La taxe foncière, évidemment, chaque commune peut agir là-dessus. La taxe professionnelle, c'est un des leviers où, en effet, il y a compétition. Soit pour être bas, pour attirer des entreprises, soit on ne veut pas trop d'implantation et on peut très bien augmenter le taux. Là, il y a vraiment marge de manœuvre. Mais les grands impôts, c'est quand même le niveau fédéral qui les définit. Ça, c'est comme ça. Il y a débat sur la redistribution de la masse de la TVA. On l'a vu sur un des graphiques, là. Donc la TVA, ça, c'est négocié tous les deux ou trois ans. Et là, il y a conflit, parfois. Et là, la Cour constitutionnelle peut dire un mot s'il y a visiblement, à leur avis, ou s'il y a quelqu'un qui porte plainte, et chaque citoyen peut porter plainte en Allemagne devant cette Cour constitutionnelle, alors là on va intervenir et dire non, retournez à la table de la négociation et négocier encore pour trouver un équilibre entre inégalité due aux dynamiques économiques, socio-économiques, migratoires aussi, je vais y revenir, et égalité quand même des prestations de services pour tous les citoyens. Voilà à peu près la situation. Alors, les migrations, nous n'avons plus de frontières en Allemagne. Il y en avait pendant de très longues années. Évidemment, il y a, et nous ne parlons pour l'instant que de l'Allemagne, à l'intérieur de l'Allemagne, il y a évidemment des flux énormes de migration. Ça va, mais ça c'est pareil en France, hein. Vous avez la métropolisation qui attire évidemment de plus en plus de citoyens vers le travail qui très souvent est dans les région métropolitaine, on en a beaucoup parlé dans notre projet qu'on fait ensemble. C'est une vérité pour l'Allemagne comme pour d'autres régions. Après, il y a des Länder qui, par leur dynamisme économique, attirent évidemment énormément de travailleurs qualifiés, très souvent, des autres Länder, mais aussi du monde entier. À Stuttgart, il y a davantage de nationalités qu'à New York. À Stuttgart, petite ville swab dans le sud-ouest de l'Allemagne, davantage de nationalités qu'à New York, ville planétaire, etc. Ça montre quelque chose. Ça montre qu'il y a une croissance, évidemment, dynamique autour des pôles industriels ou d'autres pôles comme Francfort, c'est plutôt les services, les banques. Donc il y a de fortes migrations, ce qui crée et ce qui accélère parfois le déséquilibre des territoires. Vous avez des régions, surtout à l'est, qui sont de plus en plus dépeuplés. C'est vrai, c'est comme ça. Et les gens qui restent, c'est les gens qui sont soit trop âgés pour bouger, ou qui n'ont pas les moyens de bouger, ou qui ne sont pas assez qualifiés pour trouver un travail ailleurs, ce qui a créé des situations vraiment très déplorables, et aussi politiquement très explosives, parce que vous avez des petits villages dans le nord-est de l'Allemagne où la police ne va plus. Et il y a des noyaux de nazis, pas drôle, hein. Donc ça existe, tout ça, oui. On vient de publier, il y a 10 jours à peu près, un atlas des possibilités de participation. Ça s'appelle Teilhabe Atlas. C'est une belle étude qui montre justement qu'il y a cette réalité. Et ça montre aussi qu'on ne pourra pas arrêter ce mouvement par des instruments politiques. Il faut gérer le dépeuplement de certaines régions. Il faut le gérer. Sauf si on veut mettre des clôtures autour, hein, mais on ne va pas le faire. Donc c'est un vrai débat, oui. D'un autre côté, ça a toujours existé. Il y a toujours eu, si vous pensez au 19e siècle, pas loin de Stuttgart, sur le Jura Swab, pas loin de cette ville qui aujourd'hui explose de richesses, au fond. Les gens sont morts de faim, hein. Donc ils sont venus évidemment dans la plaine. Donc il ne faut pas oublier que ces mouvements de population, soit de l'étranger, soit à l'intérieur d'un land pas tellement grand comme l'Allemagne, un pays comme l'Allemagne, ça a toujours existé. Donc oui, il y a ces mouvements, il y a des régions en décroissance, il y a des régions en croissance économique et démographique. Taux de natalité, ce n'est pas les mêmes partout. Il y a des villes qui se reproduisent, c'est très curieux. Une petite ville universitaire comme Tübingen, qui n'est pas loin du Stuttgart où j'habite, eh ben, il y a un taux de natalité incroyable. Personne n'avait jamais soupçonné ça. Bon.
Donc, c'est les enseignants ont beaucoup de loisirs.
Donc l'inégalité à ce niveau-là, elle existe et il faut plutôt veiller à ce qu'elle ne devienne pas trop importante. Elle existe et on ne pourra pas l'arrêter très facilement. Quels indicateurs pour la péréquation? Voilà ce qu'il faut demander à un mathématicien, si vous voulez plus de détails. Quelques indices, d'après ce que j'ai compris, on calcule, donc d'abord, les ressources générées par un land reviennent au pourcentage que vous voyez au land. Voilà ce que j'ai fait, voilà, je gagne ma vie avec ces impôts. Après, on calcule par habitant des moyennes sur quelques indicateurs comme prestation de certains services de l'État, accès aux soins, etc., toutes ces choses-là. On calcule par habitant les besoins des autres. On voit ce que le land pauvre a à disposition. Et après, c'est la lutte politique qui fait qu'un certain pourcentage sera équilibré par les autres. Donc c'est par habitant, globalement. D'abord, chaque land a sa propre richesse. Même les pauvres, ils reçoivent comme des d'argent. Ce n'est pas qu'ils sont inactifs. Ils sont moins performants par habitant. Le PIB n'est pas le même que dans des régions plus industrielles. Heureusement, on est assez polycentrique hein, en ce qui concerne l'industrie. Donc, on a quand même plusieurs régions traditionnellement industrielles. Il y a des régions qui vont plus ou moins bien, qui ne reçoivent pas trop. Vous avez vu, là, il y en a quand même 5, 6, 7, 8 qui reçoivent pas des sommes gigantesques. Hein. Donc, ils s'en sortent quand même. Bon, la SAR, c'est la catastrophe du charbon, évidemment. Ils n'ont jamais su payer leur dette ancienne de 2 milliards et ils souffrent de ça. Maintenant, il n'y a plus de taux, ça va s'améliorer. Mais parfois, c'est très particulier à un land petit comme la SAR. La SAR a 850 000 habitants. Hein. Mais c'est un land entier. Constitution, gouvernement, tout ce que vous voulez. Hein. C'est fou quand même, mais c'est comme ça. Il y a eu une tentative de fusion entre Rhénanie-Palatinat et la SAR. Ça a été arrêté tout de suite. Personne n'a insisté. Ça ne marchera pas. Donc vous voyez que la Saxe, oui, Rhénanie-du-Nord-Westphalie, oui, reçoit beaucoup d'argent. Mais 1 milliard pour 17 millions d'habitants, ce n'est pas tellement non plus. Parce que c'est la Saxe et Berlin qui reçoivent proportionnellement le plus. Voilà. Et pour tout le reste, des indicateurs et des modes de calcul, je déclare ma profonde ignorance. Et j'admets que même des mathématiciens avec lesquels on a une fois essayé de comprendre ça, ils n'étaient pas en mesure de le rendre compréhensible. Voilà pour la transparence.
Oui, il y a des limites. Donc, tout n'est pas vraiment sur la table. C'est ça.
Voilà. Alors, jusqu'où peut s'endetter? C'était ça la question un peu.
Est-ce qu'un budget doit être obligatoirement présenté à l'équilibre?
Non. Non. Un land est souverain, là aussi. Mais dans la constitution de maintenant presque tous les LNDR, il y a l'obligation inscrite à la constitution de l'LNDR de ne plus faire de nouvelles dettes. Le frein à la dette, Schuldenbremse, ça s'appelle. Bon, mais c'est récent, hein. C'est assez récent. Au niveau du Bund, on n'est pas obligé d'avoir un budget équilibré. Mais c'est le nouveau fétiche de tous les ministres des Finances, Schäuble, maintenant Scholz, de dire, ils appellent ça la fameuse, le zéro noir, ils appellent ça, Schwarze Null, ce qui veut dire que c'est pas rouge, donc même pas un petit peu de dette nouvelle, parce que l'ancienne dette est déjà assez énorme, donc les communes peuvent s'endetter jusqu'à une certaine limite, les Länder. Si les Länder peuvent le faire, mais ils ont eux-mêmes, se sont mis la contrainte de ne plus en faire. Maintenant, on rediscute évidemment avec les taux négatifs. On se dit, on gagne de l'argent si on fait une belle dette. Alors évidemment, à Berlin comme à Munich, on a compris que peut-être il faut revoir ça. Surtout, il y a un nouvel instrument de lutte politique, le Parti des Verts, qui, comme vous le savez, a pris une importance énorme en Allemagne. a inventé le zéro vert. Alors, le zéro noir, c'est les chrétiens démocrates qui l'ont inventé. La gauche limite, bon, je ne sais pas si c'est astucieux ou pas. Et maintenant, les verts ont inventé le zéro vert. Et là, on rediscute, évidemment, parce que si maintenant, il faut vraiment faire de gros investissements dans tout ce qui est transition énergétique, émissions CO2, sortir du charbon, parce que l'Allemagne produit beaucoup de charbon, et bien là, il faudra investir. Il faudra sans doute rompre un peu cette règle du zéro nouvel endettement. Donc, c'est pour ça que ça, c'est politiquement négociable. Hein. Dans la Constitution fédérale, ce n'est pas inscrit. Au niveau de Berlin, c'est devenu un fétiche, comme je l'ai dit, et beaucoup d'économistes, hein, même des gens très orthodoxes, Ludwig Erhard, Roeck, donc les classiques allemands, même eux, ils disent attention, il faut réfléchir, parce que les investissements, ça peut être quand même le moment de les faire, parce qu'on a les moyens, les taux sont historiquement bas, on gagne de l'argent. Maintenant, le Bund à 10 ans est moins 0,5%. L'Allemagne gagne continuellement de l'argent avec sa dette, c'est quand même assez inouï. Bon. La réunification, c'était évidemment le grand choc comparable seulement au choc italien nord-sud. On a eu ce choc est-ouest. Une économie qui marchait assez bien dans le bloc soviétique s'est écroulée du jour au lendemain. Pourquoi ? Parce qu'on a fait de l'Ostmark, donc de la monnaie est-allemande, on a fait un joli Deutschmark, ce qui a plu aux citoyens, mais ce qui a détruit complètement, évidemment, la compétitivité des entreprises à l'Est. On a fait un transfert d'argent colossal vers l'Est pour réorganiser un peu l'administration, les infrastructures, les économies, etc. Et on a créé un impôt spécial qui s'appelle des Zoli, solidarité, hein, voilà, solidarité, pour nos frères et sœurs de l'Est, des Zoli. Donc chaque citoyen allemand paye jusqu'à aujourd'hui, hein, et ça fait quelques années que ça dure, on paye 8% sur l'impôt sur le revenu. Donc si je paye 1000 euros d'impôt sur le revenu, je paye 80 euros de plus pour mes frères et sœurs à l'Est. Voilà. Actuellement, on discute une loi. Parce que c'était quand même défini comme un impôt spécial pour cet objectif, limité dans le temps. Et maintenant, on discute, est-ce que ce n'est pas le moment de l'arrêter ? Parce qu'on doit l'arrêter juridiquement, autrement il faudrait redéfinir tout ça, et ça ne sera pas possible. Et il y a contentieux dans le gouvernement, la gauche, la SPD, dit on va le supprimer à partir de 21, sauf pour les riches. Après, savoir ce que c'est qu'un riche, c'est difficile. Comme ce n'est pas sur le patrimoine, c'est sur l'impôt sur le revenu. Hein. Et les chrétiens démocrates disent, mais c'est fou, parce que Karlsruhe, la Cour constitutionnelle, va tout de suite nous dire que ce n'est pas possible, donc autant l'éliminer complètement. Donc ça, c'est un débat actuel, mais oui, on paye actuellement encore un impôt spécial pour le développement de l'Est, et quand vous voyagez en Allemagne, vous allez constater que les autoroutes à l'Est sont beaucoup plus neuve et en meilleur état qu'à l'ouest. Il y a un manque d'infrastructures à l'ouest, pas à l'est. Le haut débit s'est plus développé à l'est qu'à l'ouest. Donc ça aussi, c'est une inégalité dont on parle un peu aujourd'hui. Mais je pense que l'impôt va être supprimé simplement. Et Berlin, alors la question c'était pourquoi ils sont en banqueroute ? Parce qu'ils ont l'habitude. C'est vrai. C'est vrai. Berlin-Ouest était toujours maintenu comme avec une seringue, avec un grand fil qui venait de l'Ouest. Ils pouvaient tout se payer, ils avaient plus de théâtre que tout le reste de la planète, ils avaient toujours tout, parce qu'on voulait absolument maintenir ce petit morceau de monde libre, avec tout le pathétique qui était derrière, en vie. Et comme l'industrie qui était forte à Berlin dans les années 20, très très forte, avait complètement disparu de Berlin-Ouest parce qu'il n'y a pas la place. À l'Est, il y avait des choses, des entreprises chimiques d'ailleurs, très fortes, très compétitives, mais à l'Ouest, il n'y avait rien. Université, oui, beaucoup de jeunes qui refusaient de faire le service militaire parce que là, on ne pouvait pas être poursuivi. Ouais, c'était une ville très spéciale vers l'Ouest. Donc, ils n'ont jamais géré leurs affaires comme les autres Länder, jamais. Et maintenant, ils ont hérité d'une partie de la ville à l'Est qui n'était pas en bon état non plus, donc beaucoup d'investissements à faire. Couper des subventions pour tout ce qui est culturel, c'est difficile. Vous le savez, commencez à couper à Paris, vous allez voir ce qui se passe. En plus, la capitale, bon, maintenant on a une capitale, c'est réunifié, c'est le symbole même de la réunification, de l'Europe, etc. C'est très difficile de couper dans ces budgets-là. Il y a un dynamisme économique nouveau à Berlin. Berlin attire des habitants, on va passer les 4 millions prochainement. Donc là aussi, migration. C'est assez récent. Hein. Après 90, vous pouviez acheter très facilement soit maison, soit appartement à des prix tout à fait intéressants. Maintenant, ça commence à grimper. C'est pas Paris, c'est pas Londres, mais quand même, ça grimpe très vite. Et peut-être un jour, il y aura suffisamment de productivité économique ou d'activité économique pour que le Land ait suffisamment de ressources propres pour diminuer au moins ses dotations des autres Länder et de l'État fédéral. Pour l'instant, on paye.
Juste, Franck, ce que j'avais... Je vais encore dire une bêtise sur l'Allemagne et tu vas me démentir. Ce que j'avais entendu sur Berlin, c'est aussi que, disons, le capitalisme allemand, l'industrie allemande, que ce soit d'ailleurs de l'industrie du secondaire ou de l'industrie des médias, s'était pas précipité pour investir à Berlin après la réunification. Une partie de l'industrie allemande en fait avait préféré aller directement, si j'ose dire, sauter Berlin pour aller s'installer plutôt du point de vue manufacturier dans les ex-pays de l'Est, et que les autres disaient mais finalement on est pas mal à Francfort, on est pas mal à Hambourg, on est pas mal à Stuttgart, on va pas très bien, pourquoi on irait à Berlin. Et donc il y avait une attente, c'est ce que j'ai cru comprendre, une attente des investissements privés sur Berlin qui a été déçue en quelque sorte.
Tout à fait, oui, tout à fait vrai. Je reviens un peu au début de mon intervention. L'Allemagne est polycentrique. Berlin n'était performant au niveau industriel que pendant les années 20 surtout. Donc c'était une période assez brève. Après, c'est vrai que l'industrie de l'Est de l'Allemagne, qui était performante dans certains secteurs, dans le système soviétique, a été bradée. On pouvait acheter par la Troïenne, par cette organisation qui redistribuait un peu les entreprises soudainement en faillite. Là, on pouvait investir dans des structures existantes. La France aussi a beaucoup investi dans des raffineries, dans... Voilà. Donc, le tissu industriel berlinois, au temps de la RDA, n'était pas si fort que ça. Il existait, oui. Et surtout, il ne faut pas oublier que beaucoup d'entreprises allemandes qui avaient les moyens d'investir sont allées aussi dans les pays voisins, la République tchèque, parce que là, il y avait un décalage, évidemment, entre les salaires qui était intéressant. Maintenant, ce n'est plus le cas, mais au début, c'était évidemment ça, comme la France aussi. Hein. Tout ce qui est automobile, ça investit dans les nouveaux candidats à l'unification européenne, et c'est là qu'on a investi. Donc à l'est de l'Allemagne, oui, un peu à Berlin, mais pas comme on aurait pu le croire. C'est vrai.
C'est intéressant, peut-être pour un point d'orgue, enfin, à moins qu'il y ait d'autres questions, de se dire que finalement, l'Allemagne et la France ont un rapport complètement inversé à leur capitale. Quoi. C'est tout à fait drôle de se dire que finalement, la capitale allemande est soutenue à bout de bras par les autres territoires allemands, alors que la capitale française, on l'a vu ce matin quand même, je crois qu'on peut le reconnaître, reste, mais pour plein de raisons qui sont pas liées à l'excellence de la capitale française, un des foyers de redistribution territoriale extrêmement important. Est-ce qu'il y a encore une ou deux remarques ou questions? Pierre Veltz.
J'aurais proposé, oui.
Tu n'as pas entendu, donc tu poses une question quand même. Oui,
on en a parlé. Il semblait avoir vu quelque chose part que la migration était assez différente pour les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes qualifiées à l'Est avaient très beaucoup massivement vers l'Est. Pour moi, elles étaient plus qualifiées que les hommes. Elles avaient migré plus massivement vers l'Ouest pour les hommes.
Donc l'emploi féminin en RDA était beaucoup plus était beaucoup plus important traditionnellement parce que l'État prenait en charge les enfants, etc. C'est vrai, l'emploi féminin était là.
que moyennement les femmes soient plus qualifiées ou pas, je ne peux pas le dire. Surtout, on a vu que le premier mouvement de fuite de la RDA, c'était beaucoup de jeunes, quand même. Beaucoup de jeunes. Donc il y a plutôt un élément âge, parce que les femmes qui avaient des familles ne sont pas parties toutes seules, que je sache. Pas
massivement. Kirchen, c'est plutôt à l'ouest alors.
Pardon ?
Kindern, c'est plutôt à l'ouest.
Oui, cette vieille idée de la famille, un salaire, c'est pour ça qu'on avait des salaires relativement élevés aussi. C'est dû aussi un peu à ça, à l'idée que la femme, de toute façon, doit rester au foyer, s'occuper des enfants. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Maintenant, c'est plus du tout le cas. Par exemple, dans le service public, des salaires de fonctionnaires, ça peut vous intéresser, étaient... traditionnellement, les 60, 70, 80, assez important pour qu'un salaire, même pas trop de pointe, suffisait à vraiment nourrir et bien nourrir, créer aussi de la richesse à une famille, ça suffisait, quoi. Voilà. Dans le service public actuellement, on a réduit, on a fait des économies pas possibles, ce qui fait que le même salaire travail comparable ne suffit plus pour vivre au même niveau. Donc, il y a ça aussi. C'est vrai que le modèle la femme au foyer, c'est ouest allemand, c'est chrétien-démocrate, c'est très clairement cette école-là, et la RDA a fait le contraire. Ils ont fait crèche depuis la naissance, pratiquement, pour que ce soit de bons citoyens qui reçoivent la bonne leçon, des bons professeurs qui ont appris par cœur le bonheur de vivre dans un pays libre, des ouvriers et des paysans. Voilà, c'est un peu ça. Mais c'était un avantage, évidemment, après la réunification, que ces structures étaient là. Prise en charge de la petite enfance, ça marchait très très bien à l'Est. Beaucoup moins à l'Ouest. Aujourd'hui, on y est, à peu près, presque. Pas tout à fait. Ça s'est beaucoup développé, parce qu'il y a un manque de main-d'œuvre tellement grand. L'Allemagne a besoin, juste pour vous dire qu'en Allemagne, tout ne va pas bien du tout, hein. Ne croyez pas ça, on a un besoin de solde migratoire positif de 500 000 personnes par an pour maintenir le taux d'activité qu'on a. C'est important quand même. Bon, maintenant la démographie redémarre un peu, mais avant que ça paye, ben, faut attendre 15 ans. Quoi. Voilà. Donc soyez contents de votre démographie, c'est très bien.
Voilà, on va terminer. Merci. Sur cet appel.